Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansemann.
Bonjour Valérie, comment ça va?
Ça va très bien, vous aussi?
Mais oui, nous sommes en studio aujourd'hui.
Oui, j'espère que les auditeurs aussi vont bien. On va recevoir Elisabeth Martichoux, l'interview politique sur LCI tous les matins à 8h30, c'est elle. On va parler de cet exercice toujours simple et puis du contexte politique avec elle dans un instant. À 10h30, on reviendra sur la difficulté qu'ont certains Français à retourner travailler, à retourner. Le télétravail, ça leur convenait pas mal. Psychologiquement, c'est parfois très difficile. 0826 300 300, si vous voulez témoigner. À 11h, on reviendra sur ces territoires perdus de la République. Commençons avec les audiences d'hier soir. Très rapidement, c'est Tandem qui est arrivé en tête, figurez-vous. France 3, une fois n'est pas coutume. 4 338 000. Pourtant, c'est une rediffusion. Ça fonctionne bien et c'est Rémi Pernelet me signale 900 000 téléspectateurs de plus que la première diffusion en juillet. Donc les gens l'avaient peut-être loupé. TF1 avec le film Le Seigneur des Anneaux est arrivé en deuxième position. Et puis France 3, il y avait les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur le mal de dos avec 2 973 000 téléspectateurs. Pas mal, c'est vrai que le mal de dos ça concerne.
Oui, c'était
beaucoup
une rediffusion.
C'était une... Non, je crois pas.
Ah bon? C'était peut-être une rediffusion.
Je ne sais pas. Et puis Sister Act, si ça vous intéresse, c'était 11% de part de marché, 2,8 millions. Donc ça marche toujours.
Ça marche bien.
C'est toujours un truc qui fonctionne plutôt bien. Voilà, qu'avez-vous regardé hier soir? On a Christine en ligne de Toulouse avec nous. Bonjour Christine. Ah,
allô?
On n'a pas Christine. Bon,
on passe
on va
au
passer
zapping.
Au zapping.
Allez.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors Valérie, hier dans toute la France, vous avez vu, les personnels de santé ont manifesté, mais c'est surtout à Paris qu'il y a eu des violences. Écoutez bien. Et puis cette image honteuse de la voiture pour handicapés complètement détruite, juste un scandale. Je suis sûr que vous allez y revenir avec vos invités et le débat à 11h. Dans Quotidien, les infirmiers ont montré aux journalistes alors des choses assez hallucinantes qui sont des lettres de licenciement qu'ils ont reçues. Car contrairement aux engagements du gouvernement, en fait, les lits sont supprimés et il y a des hôpitaux qui ferment.
Donc en fait, on informe que mon contrat ne sera pas reconduit au-delà du 31 juin parce qu'on se retrouve avec trop de personnel. Alors c'est pas ça aurait pu être marrant de recevoir ça en plein milieu du Ségur, etc. Mais ça ne l'est pas. Si on se retrouve avec trop de personnel, c'est parce qu'on a simplement décidé, malgré que l'épidémie, malgré tout ce qu'on a connu, etc., qu'on recommençait à fermer des lits. Donc on referme des lits encore. Du coup, on se retrouve avec trop de personnel. Et le personnel en surplus, à part les éjecter, il n'y a que ça à faire.
C'est un peu un cercle vicieux.
Oui, c'est assez incroyable, en pleine négociation, d'avoir des infirmiers qui sont licenciés parce qu'il n'y a plus de lit. Hier, chez André Bercoff, le sur de radio, évidemment, il recevait le professeur Perron en personne, qui expliquait que les médecins et les professeurs ont refusé d'administrer de la chloroquine car ils étaient payés par les labos. Et ça aurait causé, ce refus aurait causé la mort de 25 000 personnes qui n'auraient pas donc été sauvées. Colère dans cet avou de Gilbert Deray sur ses propos, c'est le chef de service de la Pitié Salpêtrière.
D'où sort ce chiffre de 25 000? C'est grave. On vient d'avoir 3 mois de confinement, 3 mois de pandémie, 30 000 morts. Vous imaginez les familles en deuil dont les grands-parents sont morts et à qui on dit « on aurait pu les sauver, mais votre médecin, c'est un criminel ». C'est scandaleux. C'est strictement scandaleux. C'est honteux vis-à-vis des familles de faire ça. Et donc, il faut qu'il y ait contradiction sur un plateau de télévision et que ce collègue, cette personne, s'explique. Il y a des gens quand même qui disent « mais d'où nous sors-tu cela ?» C'est vraiment pas bien.
Voilà, sur le respect des familles.
Ouais.
Des comptes à rendre. Hier, le professeur Salomon était auditionné par la commission d'enquête parlementaire, interrogé par le député Éric Ciotti sur les stocks de masques. Vous allez voir que le professeur Salomon a été évasif.
Du 30 octobre 2018, je crois que vous avez cité le chiffre du 1 million au 24 janvier 2020, il n'y a pas de commande.
Non, je crois que vraiment on était dans une logique d'attente, de changement complet d'organisation du flux, de stock qui permettrait de tourner, de voir quelles étaient les précommandes, les capacités de récupérer régulièrement des masques, de voir quels étaient les stocks intermédiaires, de voir quels étaient les stocks, les besoins.
Pour Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, ce qui se passe à Dijon n'a rien à voir avec le communautarisme. Ça n'a aucun rapport. Écoutez-le.
Il n'y a rien de communautaire. Il y a une bande de Tchétchènes qui a attaqué un quartier déshérité, un quartier où on a empilé des gens et qui, en quelques heures, a fait régner la terreur là-dedans. Par conséquent, ceux qui sont pris là, qui sont demandeurs d'asile politique, n'auront pas leur asile politique et c'est une bonne chose qu'on les expulse. Enfin, on ne vient pas en France pour se battre dans la rue avec des barres de fer et des armes et je ne sais quoi.
Alors Valérie, oui Valérie,
non, allez-y.
Ça vous fait réagir.
Non, allez-y.
Valérie, hier on recevait, vous savez, la voix française de Whoopi Goldberg. Hasard des choses, c'est une autre grande voix du doublage qui s'est éteinte hier, Patrick Poivet. Alors peut-être ce nom vous dit rien, mais c'était la voix de Bruce Willis et de Tom Cruise, une voix inimitable.
Et ma voix est devenue celle de Bruce Willis. Alors j'ai dit, youpikaï, pauvre con. Oh putain. Et là je me suis réveillé. Bref, je fais un rêve.
Voilà, ouais. Petit hommage à Patrick Poivet. Hier, Ariel Dombal. Ouais, je devrais vous le faire autrement. Je devrais vous le faire comme ça. Hier, Ariel Dombal a découvert, grâce au confinement, le plaisir d'être une femme à la maison. Vous allez voir.
Et j'ai en effet fait la cuisine pour Bernard Henry et les courses et le ménage et tout ça. Mais tout ça est quand même extrêmement, enfin, merveilleux. C'est comme une sorte de lune de miel prolongée.
C'est tellement merveilleux de faire des courses pour son mari et un peu de cuisine.
Elisabeth Martichoux, bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. Vous avez découvert vous aussi le plaisir de la cuisine et des enfants pendant le confinement.
Comment vous dire, ma chère Valérie, je suis ravie d'être avec vous sur Sud Radio tous les deux. Bon. Je délègue.
Vous déléguez.
On oublie, ça. On oublie le sujet.
On oublie le sujet.
J'ai un mari, allez, je vais le dire.
Oui, vous avez un mari cuisinier.
Merveilleusement bien.
Absolument, voilà. Vous avez un mari qui cuisine extrêmement bien. Voilà. Tous les matins, on vous retrouve sur LCI, 8h30, l'interview politique. Vous collaborez également avec David Pujadas, 24h Pujadas, et puis également LCP, l'émission État de Santé. Vous étiez à la radio, vous avez été titulaire de l'interview politique sur RTL, on peut le dire, et à la rentrée, vous êtes passé sur LCI. Alors, on arrive à la fin de cette première saison. Comment s'est passé ce changement? Est-ce que la radio vous manque et comment est-ce que vous avez appréhendé cette saison?
Alors, la radio me manque, c'est une question que je me suis posée tout l'été, Valérie, évidemment, parce que quand on a un passé de radio comme le mien, c'était naturel de s'interroger. Et en réalité, non. Vous en avez sans doute fait l'expérience, vous et beaucoup de gens qui vous écoutent, quand on passe à autre chose. Oui. On tourne la page et on est impliqué dans un exercice ou en tout cas dans un environnement différent qui vous prend complètement et qui laisse pas tellement la place à une nostalgie qui serait déplacée. Je suis partie de RTL, on peut le dire, parce que j'ai été écartée de l'interview politique. RTL me proposait de rester, mais à ce moment-là, LCI m'a fait une proposition honnêtement que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Ça faisait longtemps que je lorgnais sur LCI, qui pour moi est une chaîne qui correspond tout à fait à ma ligne éditoriale. Donc c'était épatant comme coïncidence. Et après j'ai changé d'environnement, j'ai tourné la page complètement, mais l'exercice est quand même très semblable. Ça consiste en un tête-à-tête avec les politiques et à essayer de faire en sorte qu'ils ressortent de leur tranchement, qu'ils justifient leurs décisions, etc. Donc l'exercice est le même, avec en plus, en bonus, plus de temps. Et ça, je peux vous dire que c'est un régal.
C'est un régal. Alors justement, pendant le confinement, vous avez continué à travailler, vous avez eu vos différents interlocuteurs en Zoom, et l'émission quotidienne s'est souvent amusée à montrer comment Zoom ou une application équivalente, c'est-à-dire d'être en duplex, leur permettait d'esquiver des questions. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça?
Esquiver, en tout cas, c'est sûr, pour eux, c'était très pratique, parce que on avait beaucoup moins la possibilité, enfin même pas du tout, on ne pouvait pas relancer. L'intérêt, parfois, de l'interview, c'est d'être un peu dans un corps à corps. C'est-à-dire que vous avez un invité qui ne veut pas répondre, vous savez ce que c'est, donc vous leur reposez la question, Et la distance, la lourdeur, le côté un peu empesé de l'interview par Zoom était très bien avec les sachants. Au début, on n'a fait que des médecins, on avait cette découverte permanente, en même temps que presque du virus, c'était absolument passionnant. Et puis le temps des politiques est revenu. Le temps des acteurs politiques n'est jamais passé, puisqu'on a toujours vu les ministres qui étaient à l'œuvre, en particulier Bruno Le Maire, Castaner, ceux qui étaient vraiment en train d'aider les Français dans cette période de dingue, il faut le dire. Ils ont toujours été là. Et donc, ce duplex, ça casse le rythme. En tout cas, ça donne un rythme qui permet pas de relancer. Vous le faites une fois, deux fois, mais c'est compliqué. Je pense que ça crée un inconfort pour ceux qui nous écoutent. Quand on coupe, par exemple, avec un duplex, c'est d'une lourdeur qui est difficilement supportable pour ceux qui nous écoutent. Alors oui, évidemment, je crois qu'il y en a certains à qui ça a rendu service, Valérie. Ça, c'est sûr.
De nos jours, les hommes politiques ont du marketing et viennent avec des éléments de langage. En fait, et puis il y a de plus en plus, vous savez, de soupçons sur les journalistes. Comment faites-vous pour éviter qu'ils viennent délivrer leurs paroles et seulement délivrer leurs paroles et que vous soyez simplement qu'un moyen pour eux de propagande et pas forcément de contestation?
C'est
l'heure
de l'intervieweuse, justement, ça.
C'est vrai, c'est un peu toute la question. Alors, je pense que maintenant, ceux qui nous regardent et nous écoutent ont une certaine éducation. Vous savez, la langue de bois, elle était assez peu débusquée dans les années 70, par exemple. D'abord, c'était la règle. Il y avait une déférence du journalisme politique à l'égard des politiques qui est dingue. Quand vous regardez les interviews politiques de l'époque, vous tombez à la renverse. Et quand on dit que le journalisme a décliné, de ce point de vue-là, c'est totalement faux. Donc, bon, les gens ont pris l'habitude d'entendre des politiques être bousculés, et eux-mêmes, je pense, comprennent très bien que quand un journaliste pose une fois une question, deux fois une question, trois fois une question, quatre fois une question, qu'éventuellement il souligne « vous n'avez pas répondu à ma question », il comprend très bien, il voit que le politique ne répond pas. Donc c'est une façon, effectivement, de casser un peu leur stratégie d'évitement. Il y en a qui sont très doués, il y en a qui sont très doués. C'est-à-dire que, par exemple, vous posez une question et il vous emmène complètement ailleurs. Et parfois, si vous n'êtes pas vigilant, attentif, il vous emmène sur un truc éventuellement intéressant. Et donc, ça enchaîne d'autres questions. Il n'a toujours pas répondu à la question du départ. Vous connaissez. Donc, soit il répond pas, soit il vous emmène sur autre chose. Ça, c'était un peu l'esquive dans l'esquive. Donc, il faut faire attention et il ne faut pas être agressif. Il faut souligner. Je pense qu'en fait, si vous soulignez tranquillement, bon, écoutez, on va passer à autre chose, mais vous n'avez pas répondu à ma question, point barre. Les gens ont compris, les gens l'ont vu, ils ne sont pas dupes et finalement, ça suffit. Le risque, c'est d'insister, d'être un peu trop... si vous êtes vraiment dans quelque chose qui confine à l'acharnement, c'est contre-productif. Parce que là, on vous accuse de sortir de votre rôle. Donc, c'est vrai que c'est un peu une ligne de crête. Mais voilà, c'est tout l'enjeu, effectivement, de l'interview politique.
J'avais une question sur aussi le fait, vous avez dit que vous avez eu beaucoup de médecins et beaucoup de gens qui sont venus. Est-ce que votre rêve, c'était comme votre opposant de l'autre côté?
Il m'a piqué la question.
Est-ce que vous auriez aimé avoir le professeur Raoult? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce qu'il y a une guerre en interne dans les chaînes info en se disant non, c'est plus Jadas qui le fera, ça sera pas toi, ou vous auriez pu le faire tous les deux?
Alors, je me suis jamais posé la question comme ça, vous voyez, comme je suis innocente. Non, j'ai pas... on n'est pas monté tout de suite sur Raoult, on a laissé le professeur s'épanouir, et puis ensuite, effectivement, David, comme il l'avait dit, l'a appelé tous les jours, tous les deux jours, il l'a relancé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Pujadas. Alors, vous allez me dire, c'est de la langue de bois, mais ça peut exister aussi, le respect confraternel.
Ma question,
j'ai un immense respect pour son émission. Et je me suis pas... Alors, je vais vous dire, je me suis pas positionnée à côté de David. Il n'a pas l'habitude de partager vraiment à deux, ce qu'il fait très fréquemment, comme je l'ai fait avec lui. Il avait interviewé Bruno Le Maire, je suis venue avec l'anglais, c'est comme ça qu'il procède, il fait 10 minutes de questions tout seul, et puis après, il laisse laisse les autres intervieweurs faire valoir leur curiosité. Bon, là, c'était un tête-à-tête à Marseille, donc c'était différent. C'était
mais vous, vous auriez aimé l'interviewer ?
Oui, j'aurais aimé. Ça aurait été comme un exercice journalistique, comme un exercice de style. Oui. Voilà. Oui. Mais je ne suis pas du tout frustrée. Et il y aura d'autres.
Façon, vous auriez pas pu, puis même, vous n'auriez pas pu comprendre parce que vous êtes que bonne à regarder du football et vous ne connaissez pas les scientifiques, vous savez, Elisabeth.
Voilà. Non, je ne pense pas qu'elle se serait laissée déstabiliser. Beaucoup. Gilles évoquait tout à l'heure la défiance face aux journalistes, des critiques, des suspicions de complicité, etc. Est-ce que vous leur parlez avant à vos invités? Est-ce que vous avez des relations avec les politiques en dehors de ces interviews? Une question que se posent beaucoup les auditeurs.
Oui, alors, moi, je ne suis pas du tout des gens de ceux qui... Il y a différentes écoles. Moi, j'estime que pour bien interviewer, il faut comprendre les coulisses. Et pour comprendre les coulisses, il faut les rencontrer. Il faut pour démystifier, pour essayer de voir comment s'est fait le processus de décision, le processus d'une éviction, d'un choix. Si vous ne faites que rencontrer en face à face les politiques dans un studio, vous n'irez pas voir derrière la porte ou par le trou de la serrure. Donc moi, je ne suis pas du tout des journalistes qui disent « Non, je ne mange pas de ce pain-là, je ne les rencontre pas en dehors ». Si je les rencontre, je rencontre des députés obscurs qui n'ont jamais accès aux studios de télévision ou de radio. Je les vois, j'essaye de comprendre et je trouve ça important pour ne pas être dupe après du discours qu'on vous sert.
Moi, voilà. je voulais savoir, Elisabeth, comme vous êtes une jolie femme, est-ce que les hommes politiques continuent, parce qu'à une époque, on dit qu'ils draguaient les journalistes, est-ce qu'ils essayent de vous séduire ou pas, ou ça, c'est une époque révolue?
Pas très flatteur si je vous dis non.
Ils essayent de vous séduire ou pas ? Ça vous arrive ?
Je vais dire que je suis sexiste en laissant entendre que c'est pas flatteur. Bon, alors on oublie.
Non, mais même la question est sexiste parce qu'il n'aurait pas posé à un homme, Gilles, pardon.
Non, mais on sait qu'ils sont un peu lourdeaux, les hommes politiques. Enfin, qu'ils sont dragueurs, les hommes politiques.
Et les femmes, éventuellement.
Et les femmes aussi. Ah bon ? Bah oui, ça peut arriver.
Vous pensez qu'il y a des femmes qui draguent Patrick Roger ?
Oui, c'est vrai que ça peut arriver, ça. Écoutez... ça a été, c'est vrai qu'à une époque où les relations des hommes-femmes étaient différentes, où la place des femmes journalistes était différente, on sait très bien qu'il y a même des directions de médias qui ont choisi délibérément des femmes pour essayer d'aller. Catherine Ney le dit. Sans embâche, et pourtant elle a une forte personnalité, c'est une très grande journaliste politique, mais voilà, il y a eu des stratégies comme ça. Aujourd'hui, ça, c'est fini.
Oui, c'est une autre époque.
Après, qu'il puisse y avoir des bonnes ondes entre un homme et une femme, entre une femme et un homme et un homme. Qu'est-ce que c'est la vie. Ouais. Et la vie, elle existe aussi. Parfois, elle déborde aussi dans un cadre professionnel. Mais pour répondre à la question telle que vous l'avez posée, la réponse est non.
Oui. Est-ce qu'il y a une grosse compétition entre chaînes pour les invités politiques? Les chaînes d'information, les radios se sont multipliées avec des rendez-vous politiques tous les matins. C'était, je crois, une de vos craintes d'ailleurs, en passant de RTL qui était quand même poids lourd de l'audience, d'arriver sur une chaîne d'info comme ça.
Alors, il y a une compétition féroce. Mais elle est féroce. Mais même en étant un média, RTL n'est plus leader, mais à une époque, il a quand même longtemps été leader. Même en étant un leader ou un poids lourd, alors disons un poids lourd, elle est terrible. Ouais. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé le journalisme il y a quelques années, Valérie, il y avait quoi? Il y avait trois matinales.
Il y en a
17.
Ouais. Enfin, comment ils font leur choix? En fonction de l'audience, en fonction de l'intervieweur, à votre avis?
Ça dépend de l'émetteur. Ouais. Ça dépend de l'émetteur, ça dépend de l'intention de l'émetteur. Si, ce que j'appelle l'émetteur, c'est l'invité. Si l'invité a un message très, très puissant à passer... Bon, il ira aux 20h de TF1. Ça, c'est le gros ministre, et puis c'est statutaire. S'il vient pour simplement faire du... qu'on l'invite et qu'il vient faire du commentaire, Honnêtement, à ce titre-là, moi, ce qui est fascinant, c'est que tous les médias se valent. Mmh. Ce qui est important maintenant, c'est la force du message. Si vous avez un message qui est fort, et vous allez sur Radio Romorantin, il aura de l'écho. Vous savez comme moi, il aura de l'écho parce que les échos sociaux, de toute façon, se chargeront de le diffuser. Absolument. Donc, il y a à la fois une concurrence qui est très féroce pour les invités qui ont, à un moment donné, qui sont soit qui ont un message très précis à délivrer, soit qui sont les acteurs de premier plan à ce moment-là. Castaner, aujourd'hui, tout le monde le veut. Hein, et celui qui l'aura, il aura décroché le gros lot.
Donc vous êtes dessus.
On a compris que vous étiez.
On est sur la bête. On est sur le travail.
Merci
la bête.
Beaucoup.
Moi, je voulais juste, je sais qu'on on est à la pub. Ouais. Je voulais juste moi vous remercier pour une chose que vous avez faite, qui était Ruban Rouge, qui était la première émission sur le SIDA, et vous avez fait un travail avec Serge Effès qui était juste incroyable à un moment très compliqué sur France 3. Et pour ça, je vous remercie. Je suis très content de vous avoir eu dans l'émission média de Valérie Expert sur Sud Radio.
Je suis très touchée, Gilles, de cette évocation. C'était une émission qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, même sur le service public. On avait des gens qui étaient malades, mais vraiment dans des états. C'était avant les trithérapies. Ouais. Et c'est une évocation qui me touche énormément. Merci à vous, Gilles, et merci à tous les deux.
Merci, Elisabeth Martichoux. Donc, tous les matins sur LCI, 8h30, l'interview politique, 24h Pujadas, la séquence Les Partis pris, et puis sur LCP, État de santé. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un tout petit instant pour évoquer cette difficulté qu'on peut avoir à retourner au travail. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Alors, on va revenir sur, sur le travail, cette notion de la valeur travail. Beaucoup de Français n'ont pas envie de retourner au bureau. Alors, à partir de lundi, vous le savez, l'école va être obligatoire. Certaines entreprises ont demandé à leurs salariés de revenir. Il se trouve que moi, j'ai discuté avec un psychiatre avant-hier qui me disait, je suis absolument sidéré de voir le nombre de mes patients qui me demandent des arrêts de travail, qui sont angoissés à l'idée de retourner travailler, qui étaient finalement assez bien dans cette bulle de télétravail ou de chômage partiel. On va en parler ce matin et on attend vos réactions, vos témoignages, 0826-300-300. On va en parler avec Jean-Claude Delgène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du cabinet Technologia, vous avez publié « Idées reçues sur le burn-out » aux éditions Le Cavalier Bleu, vous connaissez évidemment très bien le monde de l'entreprise. Sylvie Brunet est en ligne avec nous, bonjour. Ah, elle n'est pas là. Et Christophe Nguyen, psychologue du travail, il arrive également. Alors, Jean-Claude Delgène, vous faites le même constat. Comment vous expliquez cette espèce de révolution dans les esprits où on a été très bien pendant ce confinement?
Alors, il y a deux réponses, si vous me permettez. La première réponse, c'est que déjà, on a une quantité extrêmement importante de personnes qui ont été mises en chômage partiel ou en congé maladie pour garder les enfants durant la période. Puisque vous avez à peu près en France 29 millions d'actifs, vous retirez 3 millions, je dirais, de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous tombez à 26 millions. Sur ces 26 millions, vous avez à peu près plus de 13 millions de personnes qui ont été en chômage partiel ou en arrêt maladie. Vous avez 6-7 millions qui ont continué à travailler et vous avez, disons, un peu plus de 5 millions qui étaient en télétravail. C'est ça à peu près les grands chiffres, hein. Bon, à quelques mesures près. Donc, en fait, ça s'est jamais vu dans l'histoire. Pour des raisons, je dirais, y compris de civilisation et d'éthique, on a arrêté, l'économie pour préserver la santé des plus faibles. Et en fait, on n'a jamais été confronté à ça. C'est toujours la question de savoir, si vous me permettez, est-ce qu'il faut donner de l'argent aux gens lorsqu'ils ne travaillent pas? C'est une vieille question, hein. Par exemple, à Athènes, 450 ans avant Jésus-Christ, Périclès, qui était mis en cause pour ses grands travaux, parce qu'il venait de faire construire, l'Acropole et puis le Parthénon, était mis en cause par les Athéniens, et il disait procurer de l'aisance à une multitude d'ouvriers ne peut pas se faire sans compensation, et donc il est normal qu'il travaille. Vous voyez, donc sinon on tombe dans l'oisiveté ou la paresse. C'est toujours le même débat.
Mais donc on est devenu paresseux.
C'est le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment en fait recréer une dynamique nouvelle au travail, comment réengager tous les salariés. Ça ne peut se faire qu'à travers le dialogue social, qu'à travers la compréhension des facteurs sorte de vulnérabilité qu'ont vécu les gens. Ce qui vient de se passer, c'est, je dirais, inédit. Mmh. Et donc, on ne peut pas faire comme si c'était simplement un lundi après un week-end. On a 3 mois d'inactivité. Ouais. Les gens, il faut les remettre au travail, donc avec en les responsabilisant, en étant aussi compréhensif au départ dans les problèmes qu'ils ont vécu. Certains ont perdu des proches, d'autres ont été vraiment traumatisés. Donc, il faut intégrer ces facteurs de vulnérabilité et il faut surtout s'appuyer sur les délégués du personnel qui doivent parler, y compris aux salariés, pour leur demander de reprendre l'activité. C'est ça
c'est peut-être pas aussi facile que ça, parce qu'avant d'entamer le dialogue, alors on est en ligne avec Sylvie Brunet. Bonjour. Vous êtes une ancienne DRH, députée européenne du parti Renaissance, du mouvement Renaissance, et Christophe Nguyen, psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine. Alors peut-être c'est vers le psychologue que je vais me tourner sur ces manifestations de peur, d'angoisse, de retourner sur son lieu de travail.
Oui, tout à fait. Alors on a réalisé une étude après le déconfinement qui a montré que malgré la grande confiance qu'ont les salariés envers les mesures sanitaires mises en place par leur entreprise, ils sont à peu près 1 sur 2 à considérer que le déconfinement est une source de peur et aussi de détresse psychologique. Et en tant que tel, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer aussi cette peur du retour, que je peux expliquer si vous voulez.
Oui.
Il y a tout d'abord, je pense, un contexte anxiogène global et quelque part le manque de clarté qu'il y a pu avoir autour des mesures sanitaires. On parle des tergiversations autour des masques, est-ce qu'ils étaient utiles ou pas aujourd'hui ? Et alors qu'en entreprise, on est plutôt dans un environnement très normé, sécurisé, où finalement, une certaine tranche de population nous dit, des personnes qu'on accompagne, qu'elles préfèrent aller au travail aussi, parce que dans la rue, dans les supermarchés, peut-être que la distanciation physique et le respect des règles sanitaires est moins appliqué. Alors que finalement, il y a aussi cette dimension, si vous voulez, d'anxiété qui est liée à la situation. Il y a aussi cette crainte de perte, un petit peu des bénéfices liés au télétravail, le fait de d'avoir plus de temps de concentration, de ne pas avoir les transports en commun. Et moi, j'ai un point de vigilance sur cette notion aussi de télétravail qui peut être vécu comme étant plus protecteur par rapport à une exposition au Covid. Et qui peut aussi, parce que ça a été mis en place massivement finalement comme une mesure de protection, une mesure barrière, on va dire cela comme cela, et qu'il faut faire très attention parce qu'on sait que la détresse psychologique peut générer des troubles, de syndromes qu'on appelle de stress post-traumatique, et qu'il faut que les gens finalement, parce qu'ils sont, ils ont été confinés chez eux, et qu'on leur a dit finalement que les autres peuvent être une source finalement de danger, de contamination, et que chez soi celui sécuritaire, et que finalement, avec le déconfinement, on a vu les gens aller se déconfiner avec leurs amis, avec leurs proches tout d'abord, et là il faut aller se déconfiner avec un inconnu supplémentaire qui est source d'anxiété, qui est les collègues, qui sont les collègues.
Ouais.
Donc je pense qu'il faut faire très attention à ne pas marquer, si vous voulez, le télétravail comme étant une forme de sécurisation psychologique, parce que pour éviter finalement, pour réduire le risque de développer un syndrome de stress post-traumatique, il faut s'exposer graduellement, si vous voulez.
Donc il faut retourner petit à petit au travail. Alors il y a aussi je vois un auditeur qui nous dit l'angoisse à bon dos quand même. C'est-à-dire qu'on est peut-être aussi gagné par la paresse. Sylvie Brunet, vous travaillez sur le télétravail, vous, au Parlement européen. Vous connaissez bien le sujet. On a entendu le gouvernement parler du télétravail et puis depuis quelques jours, on entend Bruno Le Maire dire ça ne doit pas être la règle. Et les entreprises sont même dans un très grand flou elles-mêmes. Elles ne savent pas si elles doivent encourager, pour des raisons plus ou moins économiques d'ailleurs, le télétravail.
Écoutez, c'est un sujet qui s'est posé comme d'autres conséquences de la Covid-19 dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, il y a eu une première étude faite par l'agence Eurofound sur les travailleurs qui a montré que un salarié sur 4 dans les 27 États de l'Union européenne ont pour la première fois télétravaillé avec cette crise. Ils n'avaient jamais télétravaillé avant. Et en France, on est dans la moyenne. Voilà, c'est un peu une découverte. C'était dans beaucoup d'organisations, on en parlait. Et là, ça a accéléré sans doute un besoin d'organisation en partie en télétravail. Mais je rejoins ce que disait à l'instant Christophe Nguyen, ça peut pas être la norme complète. Ouais. Et en plus, c'est vécu individuellement différemment selon les personnes. Voilà, donc ça peut être utilisé de façon bénéfique dans les organisations, mais n'utiliser que le télétravail, non. Mmh. Et puis, ça doit être un objet de dialogue social, parce que d'une entreprise à l'autre, d'un établissement à l'autre, on va avoir des situations différentes. Donc, ça relève pour moi vraiment du dialogue social dans l'entreprise.
Oui. Et si je peux compléter sur la paresse, excusez-moi.
Oui.
La paresse est aussi anxiogène. Elle est aussi angoissante. Oui. Ça peut s'apparenter aussi à une forme de procrastination. Et je pense qu'il faut être très vigilant sur ces termes et qui peuvent être aussi stigmatisants pour des personnes qui finalement font ce qu'elles peuvent. Quoi, d'une certaine façon.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même... Alors Jean-Claude Delgen voulait réagir.
Sur les risques du télétravail, nous avons fait une enquête durant l'été qui a fait un peu grand bruit puisqu'on a démontré, y compris les usages abusifs du chômage partiel par certains employeurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à la fois des avantages, ça a été rappelé, mais aussi de graves inconvénients. L'on sait que quand vous êtes en télétravail plus de 2 jours par semaine, vous avez un délitement du lien social, vous êtes exposé, je dirais, à un appauvrissement, vous êtes moins en connexion avec, je dirais, le lieu stratégique de l'entreprise, là où vous avez des informations, là où vous avez, y compris, de la formation sur le tas. Et en fait, quand vous êtes à plus de 2 jours de télétravail par semaine, vous êtes en risque de quitter l'entreprise dans les 2 ans qui suivent. En fait, il faut vraiment faire attention lorsqu'on parle de télétravail. Pourquoi ? Parce que les variables changent. Il y avait le télétravail avant la crise, ça concernait à peu près 1,8 million de salariés. Pendant la crise, on est passé un peu plus de 5 millions, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 3. Et aujourd'hui, on parle de être dans un travail télétravail illimité. Bon, il faut faire très attention. La question, elle est essentielle, c'est de véritablement permettre aux gens de se réengager dans le travail pour protéger leur emploi. On ne peut pas continuer très longtemps à être tous, y compris pour les employeurs, parce que la créativité, je dirais, en matière de télétravail est très souvent remise en question. On n'a pas la même richesse, on n'a pas les mêmes... Donc, quand on est à 2 jours par semaine, on bénéficie à la fois des effets, je dirais, bénéfiques. Hein, ça a été dit, l'empreinte carbone, on évite les transports en commun, moins de fatigue, on peut gérer, y compris, les contraintes familiales. Et on bénéficie aussi, je dirais, on évite les inconvénients. Et les inconvénients, c'est aussi la délocalisation des activités. Parce que si tout le monde est en télétravail, demain, on va avoir la fuite des emplois vers d'autres pays, avec des écarts de salaire qui sont importants. Important, que vous soyez en télétravail à Lyon ou à Tunis, à Tunis, ça coûte 4 fois moins cher. Il faut faire très attention. Donc, le télétravail. Alors, ce que je veux dire pour terminer sur le sujet, c'est que le télétravail aussi, et ça, c'est très important.
Source d'angoisse.
Source d'angoisse, parce qu'il y a à peu près un tiers des salariés, nous, on l'a vu dans l'étude dernière que nous avons menée, un tiers des salariés ont été oubliés. C'est-à-dire qu'ils sont tombés en fait dans l'inactivité totale, sans être appelés, sans être mobilisés. Et donc, ces gens-là ont été...
Un tiers
à peu près. Donc, ça veut dire que tous ceux, dans les 5 millions et quelques, un tiers des gens qui ont été complètement oubliés, qui sont sortis des radars. Et ces gens-là sont dans un risque énorme, parce qu'on ne les a pas appelés.
C'est le bore-out, c'est l'ennui.
L'impression
d'être inutile.
Et puis, l'incertitude. Mmh. S'ils n'ont pas été appelés, ils ne sont pas utiles. Comment on va faire au retour ? Est-ce que j'aurai un job ? Comment ça va se passer ? Je discutais dernièrement avec un chef d'entreprise, il me disait que c'est lui qui me disait ça, c'est pas moi qui le pensais, il me disait qu'il tournait à 40% d'effectifs et que la boîte globalement fonctionnait très bien. Ouais. Et donc, vous voyez, qui pèse aujourd'hui comme pression sur un... Et quand vous êtes avec un salaire moyen français à peu près à 1 700 € par mois, que vous avez un travail pénible, il ne faut pas oublier que 67% des Français sont avec un travail atypique, c'est-à-dire qu'on imagine le travail comme étant de 8 heures lundi jusqu'à vendredi à 17 heures, mais ce n'est pas du tout ça. 67% des travailleurs sont travail de nuit, travail de week-end, travail en alternance, en chaîne, etc. Et donc, les gens se disent pourquoi je vais reprendre aussi facilement alors que j'ai bénéficié d'une aisance que m'a donnée, je dirais, le télétravail ou le chômage partiel. Donc, c'est important pour notre pays réenclencher une dynamique positive. Alors, et ça, c'est très difficile.
On va en reparler. Et puis, c'est ça, c'est au-delà de, du sujet du télétravail. Est-ce que le Covid, la Covid, n'a pas aussi fait relativiser les choses et le sens de la vie? Alors là, absolument, on rentre dans des choses plus philosophiques. Et le sens du travail, en se disant, finalement, est-ce que mon boulot a un sens? On va en reparler avec vous dans un instant, 0826-300-300, si vous voulez témoigner. Merci à vous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Claude Delgène, directeur général du cabinet Technologia. Votre livre, Idées reçues sur le burn-out, est paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Sylvie Brunet, ancienne DRH et députée européenne Renaissance. Et Christophe Nguyen, psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine. Oui, je voulais qu'on revienne sur cette notion de ce que représente le travail et de la relativité de la, qu'on a pu peut-être percevoir pendant cette période de Covid. Sylvie Brunet, vous qui avez été DRH, est-ce que le rapport au travail a pu changer et était de toute façon peut-être en train de changer? On a vu des tas de gens qui voulaient changer de boulot. On l'évoquait avec Jean-Claude Delgène, ouvrir des maisons d'hôtes. Et est-ce que ça n'a pas accéléré ce sentiment de détachement face au travail?
Alors, pas forcément. Moi, je suis pas forcément certaine de ce point. Non, je dirais que la grande attention qu'il va falloir porter là dans les mois à venir, c'est que ça n'accentue pas un certain nombre d'inégalités que l'on avait de toute façon. Ouais. Au fond, cette crise, elle n'a fait que mettre le doigt à accentuer un certain nombre de phénomènes qui existaient. Alors, on a vu tous les métiers en première ligne qui ont été mis en avant, qui n'étaient pas forcément, et loin de là, les mieux payés. Donc, parce qu'on parle du télétravail, on vient de parler du télétravail, mais on a aussi tout ce qui est service à la personne. Là, on ne télétravaille pas, hein, donc on est auprès des gens. Alors, j'insisterai aussi sur le fait que, du coup, beaucoup de femmes dans ces secteurs-là, on a vu donc, et d'ailleurs, pour le télétravail aussi, on ne l'a pas souligné, mais beaucoup de femmes ont été plus, je dirais, dans un déséquilibre dans leur vie par rapport à cette forme de travail, parce qu'il fallait aussi gérer la situation familiale, les obligations, les enfants à la maison, tout en travaillant tant bien que mal. Donc, moi, j'ai la crainte que ça puisse creuser les inégalités. Et donc, il va falloir être très attentif à ce point. Ensuite, il y a toujours un peu le fantasme de se dire il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres au niveau économique. C'est vraiment l'analyse qu'on va conduire au niveau européen avec les 14 grands écosystèmes pour voir écosystème par écosystème quels sont les plus touchés. Alors, bien sûr, on pense au tourisme, on pense même au secteur industriel comme l'automobile, la culture. D'autres sont pas ou moins touchés. Et donc, il y a un peu ce fantasme de se dire, au fond, dans les secteurs les plus touchés, on va avoir malheureusement, sans doute, des pertes d'emploi, des soucis de reconversion en termes de compétences. Mais ça va pas se faire comme ça et pour aller diriger vers les secteurs qui vont le mieux marcher. Ouais. Et ça se fait pas en 2 mois, en 3 mois. Il y a une notion de temporalité, je n'arrête pas de répéter ici au Parlement européen, entre les mesures plus long terme sur la transformation écologique, digitale, où on va évidemment nous mener tout ce plan de relance autour de ça. Mais il y a l'urgence. L'urgence, c'est les plus vulnérables, c'est les jeunes. J'insiste aussi sur ce point. Il ne faut pas qu'on ait une génération sacrifiée là sur l'année à venir qui va avoir beaucoup de mal à trouver un premier emploi. Donc voilà, on a toutes ces questions qui vont se poser de façon vraiment drastique. Il faut se mobiliser parce que sinon on va avoir des personnes sacrifiées. Je vois monter aussi avec une grande inquiétude la grande pauvreté. L'aide aux plus démunis qui va devoir aussi s'accentuer. Mais le rapport au travail lui-même, non, je dirais au contraire, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes auxquelles ça a manqué. Parce que le travail, mais c'est aussi le lien social, on l'a dit, c'est les rapports humains et dans les risques psychosociaux, il y a le manque de sociaux, il y a le manque de soutien social.
Et de
contact. Donc, et je dirais aussi que quand il y a eu tous ces premiers mois, on parlait sans arrêt des métiers utiles, Et je pense que ça a pu se générer chez certains qui, quand même, télétravaillaient, bossaient, l'impression de se dire, moi, au fond, je suis inutile, quoi. Je fais partie de ceux qui sont pas en première ligne. Ça a pu générer ça aussi. Chaque travail a son utilité. Et puis, dernier point, ouais. En Europe, dans les, on a quand même, j'insiste sur ce chiffre, 40% des actifs qui ne sont pas au niveau digital, qui ne savent même pas, qui ne sont pas équipés, qui ne savent même pas se servir d'Internet. Ne ouais. l'oublions pas, ouais, on non, parle tous puis, comme puis si tout le monde était à niveau. Ouais, non,
et, puis les, et puis les zones blanches qui
absolument,
perdurent.
Absolument, plus, ouais. plus cette question. Donc, ouais. On a un gros ouais. besoin d'investissement en compétences, en formation, ouais. qu'on va mener, nous, au niveau européen, pour aussi investir sur les compétences, parce ouais. que sinon, on creuse les inégalités. Et ça, c'est vraiment... pour moi, un très gros souci sur lequel on va devoir être attentif avec les syndicats, avec les collègues parlementaires et avec tous ouais. les États membres.
Alors, Christophe Nguyen, oui. je voulais revenir avec vous. Donc, vous êtes psychologue du travail sur la question que je posais, à savoir ce délitement, cette mise à l'écart du travail, cette mise à distance plus précisément de la notion de travail.
Oui, alors moi, je dirais que ce n'est pas tant un délitement de l'engagement qu'on peut avoir dans son travail, qu'on voit à l'œuvre, que plutôt un processus de résilience qui est inhérent, on va dire, à tout choc potentiellement traumatique et qui passe par peut-être des nouvelles attentes vis-à-vis du travail.
Oui.
Par rapport à ça, on a vu dans l'enquête, on a mesuré ce qu'on appelle la croissance post-traumatique, qui est quelque chose qui est issu de la psychologie positive et qui permet de voir en fait le rebond psychologique que peuvent avoir les personnes qui ont été exposées à une situation potentiellement traumatique. Tout le monde ne va pas être traumatisé, mais la grande majorité va changer. Et ce qu'on voit, c'est que quand même, 60% des salariés disent qu'ils apprécient mieux la valeur de la vie en tant que telle. Mmh. Parce que ouais. on a été confronté à des vulnérabilités sociales, ouais. économiques, psychologiques. Et on voit que finalement, ça a bouleversé. Et on le voit dans les crises de vocation, on le voit sur les questions d'utilité et les attentes de reconnaissance aussi qu'on a. Et forcément, c'est pas neutre au niveau de l'entreprise. On voit aussi que 50% des salariés attendent que leur employeur les aide à mieux appréhender psychologiquement leur travail. Alors, pas forcément avec des psychologues partout, mais plutôt d'avoir une approche d'accompagnement où la question du bien-être et de la sécurité psychologique va être centrale.
Ouais.
Il y aura une attente sociale beaucoup plus forte vis-à-vis de ça. On voit aussi qu'il y a 33% des salariés, 34% qui disent qu'ils ont donné une nouvelle orientation à leur vie. C'est pas neutre, une nouvelle.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, la question aussi de la relation et de l'importance donnée à la bienveillance, aux relations saines et notamment au travail va être fondamentale. Et quand on voit que finalement les gens disent, 4 salariés sur 10 nous disent que le déconfinement a créé des nouvelles tensions dans l'entreprise, parce qu'il y a des inéquités, on en a parlé là, mais concrètement, au sein des entreprises, c'est une catégorie de personnes qui a été en chômage partiel, qui s'est sentie peut-être plus inutile, c'est un peu le message qui a été donné, vous êtes moins utile que peut-être d'autres personnes qui peuvent télétravailler, plutôt des cols blancs, et on voit que les cols bleus ont pu rester en première ligne en tant que tels, donc on pense aux caissières, on pense à des gens, des opérateurs qui ne pouvaient pas télétravailler, par exemple, et qui ont été exposés, qui disent on a été confrontés, plus exposés à la mort, d'une ouais. certaine façon. Donc c'est très important, effectivement, de bien accompagner ce déconfinement par la prise en compte du vécu. Il y a des techniques pour cela, il y a des façons d'attaquer le sujet, mais surtout, il faut créer ce climat de sécurité psychologique. En termes de sécurité ouais. sanitaire, je pense qu'on est bien avec les protocoles. Au niveau de la sécurité psychologique, il y a beaucoup de travail. C'est moins d'une entreprise sur deux qui sait ce que c'est, en fait.
Ouais.
Je pense que même pour les salariés, il faut développer cette culture où chacun peut être acteur, mais prendre en compte qu'il y a des vrais mouvements de fond, et c'est la résilience psychologique qui est inhérente ouais. à tout ça, ça j'en parlais, qui va créer ces nouvelles attentes, il va falloir être très attentif. On ouais. voit même que la Genre... valeur ouais. de la santé va dépasser...
Va devenir centrale.
Voilà.
Ouais. 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 Jean-Claude Delgen.
Ce que l'on voit bien, en fait, c'est qu'il y a une crainte sanitaire qui reste, en fait, dans les entreprises, c'est normal, avec tout ce que, je dirais, on a vécu au cours des 3 derniers mois, la peur, y compris d'une seconde vague. Et ce que l'on voit aussi, c'est la crainte de, je dirais, du désastre économique et social qui vient, puisque, année, on a 50 000 défaillances d'entreprises. Là, on va avoir un été meurtrier trier, il faut dire les choses comme elles sont, avec bon nombre de consolidations financières, souvent en passage devant le tribunal de commerce, des rachats, des apurements de dettes qui vont elles-mêmes, quand les créanciers ne seront pas payés, accentuer le, je dirais, la difficulté des boîtes qui sont elles-mêmes encore debout. Donc on est dans une situation de très grande crainte. Et effectivement, un certain nombre de salariés se disent « Ouh là là, où je vais ?»
Ça va être très dur.
Alors, il y a ceux qui répondent en s'engageant, il y a ceux qui sont vraiment atterrés de la situation, et d'autant que parfois, ils ont été totalement oubliés dans la période. Donc, il faut remettre tout le monde au travail. Remettre tout le monde au travail, ça ne peut pas se faire sans le concours des médecins du travail, sans le concours des délégués du personnel, des représentants du personnel. Il faut parler à plusieurs voix et il faut y aller crescendo. Il faut vraiment remettre peu à peu la machine en route, et ça ne se fera pas en claquant des doigts. Ça ne se fera, y compris qu'avec une vision, donner une vision de ce que ce sera l'entreprise, le service public.
Enfin, est-ce que les entreprises le savent elles-mêmes ? Et puis c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec Angelo qui dit on minimise le virus et on n'en parle plus du tout. Il y a quand même des risques.
Absolument.
Il y a quand même des risques et on en parle assez peu. Là on dit tout le monde retourne travailler.
Absolument.
Sauf qu'on entend aussi des médecins qui disent
attention,
c'est pas fini, on voit ce qui se passe en Chine, et je pense qu'il faut être extrêmement prudent et ne pas se précipiter.
C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, en termes de télétravail, favoriser l'extension du télétravail aux 5-6 millions qui l'ont connu, essayer de maintenir ça, mais le limiter à 2 jours par semaine, organiser des rotations, parce que le télétravail se pratique beaucoup dans les grandes agglomérations. Pourquoi ? Parce que les gens veulent éviter les transports en commun. Donc, par exemple, en région parisienne, c'est là où il y a eu le plus de pratiques de télétravail par rapport, à la province. Donc, on peut très bien déjà trouver des méthodes d'organisation qu'il faut conserver sur le long terme, mais en évitant les dangers du tout télétravail. Ça, c'est ça que je voulais dire. Deuxièmement, on peut très bien accompagner ce retour au travail en créant une dynamique collective. Il faut rechercher le réengagement des salariés par une dynamique collective. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que, en fait, vous êtes encore dans une logique top-down, c'est-à-dire, vous avez les DG qui décident, et tout descend en bas. Et on n'associe pas suffisamment les acteurs de terrain, les représentants du personnel, à la définition de ce que ce sera demain. Et si on ne fait pas ça, on n'y arrive pas parce qu'on tétanise les énergies. Il faut remettre tout le monde, et donc tout le monde, ça veut dire avoir véritablement une coopération au plus près du terrain pour traiter les problèmes d'anxiété qui ont été évoqués, pour permettre de rassurer, pour prendre les bonnes mesures en termes de sécurité et pour dire on y va tous, on se serre les coudes et on peut effectivement faire face à l'avenir. Sinon, on aura un effet d'amplification. Vous savez qu'un salarié engagé, par exemple, il est 30 à 50 fois plus efficient qu'un salarié non engagé. Donc, il est très important de travailler là-dessus et de permettre à chacun de revenir.
Voilà, merci à tous les trois. On a entendu votre message, Christophe Nguyen, psychologue du travail. Retourner au travail, il faut affronter sa peur et y retourner petit à petit, se confronter à ce qu'on pense être un danger, puis ne pas hésiter à consulter. Merci Jean-Claude Delgen, merci Christophe Nguyen et merci à vous Sylvie Brunet. On va se retrouver dans un instant pour commenter l'actualité, mais avant, nous avons notre gagnante et c'est Chantal. Bonjour Chantal.
Bonjour, comment allez-vous ?
Mais bien, et vous ?
Super contente, je vous écoute tous les matins.
Écoutez, merci de votre fidélité.
Depuis quelques jours, je vous écoute parce que dans le fil d'eau, j'avais du mal à vous avoir avant. Ouais. Et je vous ai découvert et du coup...
Vous êtes là tout le temps. Écoutez, on est ravis de votre fidélité et ravis que vous soyez récompensés. Vous avez été tiré au sort et vous avez gagné donc un pass, 4 passes d'une journée pour le parc Spirou près d'Avignon. Vous avez des enfants ?
Oui, des petits-enfants.
Des petits-enfants, ce sera parfait. Boulet Bill, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, tous les personnages de Spirou. Donc, vous allez passer une journée formidable avec le parc qui réouvre samedi prochain. Merci de nous suivre, Chantal. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour commenter l'actualité sur Sud Radio.